tous. Voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Hevels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Nous nous proposons de vous emmener ce matin en randonnée. Ce sera une randonnée particulière, puisque nous accompagnerons discrètement Jésus et trois de ses proches dans une ascension, peut-être celle du mont Tabor, où s'est passé, semble-t-il, quelque chose de tout à fait exceptionnel.
Dans la Bible, gravir une montagne, c'est un peu comme traverser le désert. Autrement dit, c'est aller à la rencontre de Dieu. Gravir pour gravir, nous ouvrons notre marche et notre réflexion par un psaume de la série Psaume des Montées que les Juifs récitaient en allant au temple sur la colline de Jérusalem.
Le psaume 126. Quand le Seigneur nous a rétablis, nous étions comme des gens qui font un rêve. Alors notre bouche était pleine de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Oui, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses et nous nous en réjouissons. Ceux qui sèment avec des cris, avec des larmes, moissonneront avec des cris de joie. Celui qui s'en va en pleurant quand il porte la semence à répandre revient avec des cris de joie quand il porte ses gerbes.
Vous qui êtes à l'écoute ce matin, soyez remplis de cette même joie. Dans toutes nos églises et dans tous nos temples, ce dimanche, on va lire ensemble et méditer le chapitre 9 de l'évangile de Marc, connu sous le titre « La transfiguration de Jésus ». Je n'ai pas résisté à l'envie de partager quelques réflexions à partir de ce même texte. Il relate un épisode si extraordinaire, si exceptionnel, si pittoresque aussi, qu'il serait dommage de ne pas s'y arrêter. Nous allons donc accompagner Jésus, Pierre, Jacques et Jean sur le mont Tabor, lieu présumé de l'événement. Quelque temps avant cet événement, Pierre a confessé que Jésus était bien le Messie attendu. À l'écoute de cette déclaration importante, le Seigneur a évoqué sa fin de vie, sa passion, sa mort et sa résurrection, sans oublier de dire les difficultés que les disciples auront à le suivre, ce qui en a découragé plus d'un. Lisons le texte biblique.
L'évangile de Marc, au chapitre 9, les versets 2 à 13. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient que répondre car l'effroi les avait saisis. Une nuée vint les envelopper et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent alentour, mais ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils retinrent cette parole tout en discutant entre eux. Qu'est-ce que ressuscité d'entre les morts? Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils « Il faut qu'Élie vienne d'abord » Il leur répondit, « Élie vient d'abord et rétablit toutes choses. Comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon ce qui est écrit de lui. »
Yeah.
Peut-on parler du mystère de la transfiguration? Certainement. Pourtant, je vous propose non de percer ce mystère, mais de nous approcher un peu du sens que l'évangéliste voudrait nous en donner, même s'il est lui aussi dépassé par les événements. Ce phénomène est une première et en même temps une dernière dans l'évangile. Il frappera aussi l'imagination des artistes et notamment des peintres pour qu'à partir de cette lecture, les personnages bibliques touchés par la présence de Dieu soient illuminés d'une lumière rayonnante, l'auréole. L'auréole, l'aura, trouve son origine dans ce texte, mais peut-être aussi dans un autre qui n'est pas sans rapport avec celui que nous examinons. La transfiguration est comme un écho d'un autre événement. Sautons les siècles et retournons un peu dans le passé. Le lecteur de la Bible peut ainsi se souvenir d'un événement très ancien, raconté au tout début de cette Bible, au temps de l'Exode, dans les chapitres 34 et les versets 29. Moïse, un personnage proche de Dieu, a été illuminé de façon spéciale. Voici ce que nous en dit le texte du Premier Testament. Moïse redescendit du mont Sinaï en tenant les deux tablettes de pierre qui constituait le document de l'Alliance. Il ignorait que la peau de son visage brillait à cause de son entretien avec Dieu. Quand Aaron et les Israélites virent l'éclat de son visage, ils eurent peur de s'approcher de lui.
Restons un instant avec Moïse pour rappeler un détail. Ce Moïse, qui entraîne et dirige les Hébreux dans le désert, en route vers la terre promise, est resté une semaine sur le mont Sinaï, seul avec Dieu. C'est à l'issue de ces 7 jours exceptionnels qu'il redescend, avec les tables de la loi, tout rayonnant de la lumière divine. C'est ainsi qu'il surprend Aaron, son frère, et l'ensemble du peuple. Or, lorsque Marc relate l'expérience de Jésus sur la montagne, il commence son récit par « 6 jours après ». Cette expression que j'ai lue tout à l'heure vous a d'ailleurs peut-être étonnée. C'est que l'évangéliste fait un clin d'œil à ses lecteurs. Le 7e jour, sur la montagne, le Christ est illuminé de la présence de Dieu, comme Moïse l'a été au mont Sinaï. Et là-haut, sur la montagne, Moïse a reçu les tables de la loi. Que va donc recevoir Jésus sur le mont Tabor? C'est tout l'enjeu du récit. L'auteur de l'évangile joue sur les similitudes avec le texte de l'Exode, mais aussi sur les différences entre le mont Sinaï et la montagne de la Transfiguration. D'ailleurs, est-il juste de parler de transfiguration?
Ce que les disciples ont vu autour de Jésus est tout de même différent de ce qui semble s'être passé au temps de l'Exode. En effet, l'évangéliste Marc laisse entendre que le phénomène lumineux tient à la métamorphose entière du Christ et pas seulement de son visage. D'ailleurs, le terme traduit par « transfiguré » est celui qui, du grec en français, a donné plus justement le mot « métamorphosé ». Dans ce récit, le changement visible et lumineux touche tout l'être et non la figure seule. En effet, les vêtements du Seigneur rayonnent eux aussi. Peut-être même que ce rayonnement englobe les deux visiteurs venus d'ailleurs, Élie et Moïse.
Oh.
Mais avant de parler de ces visiteurs et de leur entretien avec Jésus, je voudrais encore m'arrêter sur les trois disciples qui l'accompagnent sur la montagne. Moïse était seul au sommet du mont Sinaï. Jésus est monté accompagné, et pas de n'importe qui. Le texte de l'Évangile nous dit, avec une certaine insistance, que Jésus se rend sur la montagne pour être à l'écart, seul avec Pierre, Jacques et Jean. En choisissant ces trois hommes pour l'accompagner et être témoin d'un événement exceptionnel, Jésus entérine un choix qu'il avait déjà fait. En effet, quelques mois plus tôt, le Seigneur a ressuscité une jeune adolescente, la fille de Jaïrus. Or, ce miracle s'est opéré presque à huis clos.
Dans la chambre de la défunte n'étaient entrés que Pierre, Jacques et Jean. Les trois disciples, souvent cités en tête de liste, sont alors les témoins privilégiés d'un miracle étonnant, la résurrection d'une morte. Ce rappel permet de signaler que l'on va aussi parler de résurrection sur la montagne et de la montagne de la Transfiguration. Lorsque Pierre, Jacques et Jean auront vu Jésus discuter avec Élie et Moïse, Jésus leur demandera de ne pas en parler jusqu'à sa résurrection. Étonnante consigne. Jésus est en train de confier progressivement à ses amis les pièces d'un puzzle qu'ils ne pourront reconstituer que plus tard. Avec eux, usons également de patience.
On peut aussi encore souligner que Pierre, Jacques et Jean seront à nouveau sollicités par Jésus pour un épisode intime et particulier. À quelques heures de l'arrestation de Jésus au jardin de Gethsémané, le maître leur demandera de rester à l'écart avec lui pour prier. Or, ils s'endormiront. Pour l'heure, il n'est pas question de s'endormir, car Pierre, Jacques et Jean vont voir plus impressionnant encore qu'une résurrection. Ils vont voir des êtres disparus depuis des siècles, Élise et Moïse.
Seul avec Jésus, à l'écart sur la montagne, là où l'on rencontre Dieu, entre terre et ciel, on voit, on vit, on entend des choses extraordinaires, des choses qu'on ne voit, qu'on ne vit, qu'on n'entend pas d'ordinaire. Nous sommes dans un espace hors norme. Les repères temporels sont brouillés, car en plus, voilà qu'interviennent des personnes mortes depuis longtemps. Moïse et Élie s'entretiennent avec Jésus. J'imagine la stupeur des disciples qui, pour le coup, restent sans voix. Même Pierre n'hurle plus au fantôme. Pourtant, les questions doivent se bousculer dans les esprits fragilisés par la stupeur. Comment des êtres morts depuis des siècles peuvent-ils s'entretenir avec un être vivant? De plus, n'est-il pas formellement interdit par la loi juive, et donc par la loi de Moïse lui-même, d'invoquer les défunts et de faire appel aux morts?
Mais ici, sur la montagne, nous sommes bien dans un espace-temps décalé. La barrière entre les morts et les vivants tombe. C'est peut-être le début de l'explication que Jésus veut donner. Il avait parlé de mourir, mais il avait aussi parlé de revenir à la vie. Il faudra que les disciples remettent tout cela en place. Pour le moment, Jésus, resplendissant, métamorphosé, discute avec deux héros de l'Ancien Testament. Une des choses les plus surprenants de cet épisode, une de plus, c'est qu'il semble facile pour les témoins de reconnaître des gens disparus depuis longtemps. Car comment peut-on dire que les deux hommes qui s'entretiennent avec Jésus sont Élie et Moïse, et non deux bergers du coin qui passaient par là? Sans doute que dans cet espace où tout est bouleversé, une certaine connaissance est acquise, intuitivement. Nous sommes vraiment téléportés dans l'extraordinaire. Et puis, Jésus discute avec Moïse et Élie sans que nous sachions de quoi il parle. Quel dommage! Ce qui semble utile à remarquer, c'est davantage leur présence que ce qu'ils se disent.
Autre chose déroutante, mais on n'en est plus à une près, on parle d'Élie et de Moïse, et non de Moïse et Élie. L'ordre historique n'est donc pas respecté. Mais puisque les temps se télescopent, il ne faut pas être trop, peut-être s'arrêter à un seul détail comme cela. Par contre, nous savons que les deux hommes symbolisent la loi et les prophètes. Et on sait aussi que ces deux personnages ont une dimension spéciale, pour ne pas dire une dimension céleste. D'après les textes bibliques, Élie a été enlevé au ciel et Moïse est mort étrangement. À noter que dans la tradition juive, selon l'historien Flavius Joseph, Moïse serait monté au ciel comme Élie. Ici, je cite Flavius Joseph. Tandis qu'il saluait Éléazar, le successeur d'Aaron, et Josué, et s'entretenait encore avec eux, une nuée se posa soudain sur lui et il disparut dans un ravin. Mais il a écrit lui-même dans les livres saints qu'il était mort, de crainte que, par excès d'affection pour lui, on osât prétendre qu'il était allé rejoindre la divinité.
Au cœur d'un bien étrange tableau. Dire que l'on pense avoir inventé le surréalisme au XXe siècle. On est peut-être au milieu d'un rêve et il faut se pincer pour être sûr de ce que l'on voit. Sur la montagne, Jésus est resplendissant de blancheur. Pierre, Jacques et Jean, les plus proches des disciples du Seigneur, sont témoins d'une rencontre digne d'un retour vers le futur. Il y a là Élise et Moïse venus du passé.
Et dans ce contexte, Pierre, l'apôtre aux mille audaces, ose enfin intervenir au risque de se mêler de la conversation. Et il propose une chose incongrue. D'abord, il dit à Jésus « Rabbi, maître », ce qui n'est pas son habitude, et cela peut surprendre, puisque quelques jours plus tôt, il avait déclaré Jésus comme étant le Christ. Il est vrai aussi que Jésus avait déstabilisé Pierre en lui interdisant d'en reparler. Pierre ne semble plus savoir comment appeler son maître. Donc, pour cette fois, il lui donne du rabbi, puis il propose d'installer des tentes.
Des tentes terrestres, pour des êtres plutôt célestes. Il est clair que Pierre ne sait plus très bien ce qu'il dit. Face aux événements, il ne sait comment répondre. Le verbe « répondre » est utilisé par Marc pour mettre en évidence un événement devant lequel on ne sait justement pas comment réagir, comment répondre. Il ne sait comment répondre, nous dit l'évangéliste. C'est d'autant plus intéressant que nous allons retrouver cette phrase plus loin dans l'évangile. Dans l'épisode que j'ai brièvement relaté tout à l'heure, dans le jardin de Gethsémané, Jésus, qui a demandé à Pierre, Jacques et Jean de veiller et de prier avec lui, les retrouve endormis. Et devant les reproches de Jésus, Marc écrit « Il ne savait que répondre ». Pauvre Pierre et pauvre disciple. Que Jésus soit transfiguré par la gloire ou défiguré par la tristesse, ils ne savent jamais que répondre. Nous sommes dans le brouillard le plus complet, lorsque soudain, une nuée vint les envelopper et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent alentour, mais ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux.
Et il n'y aura plus d'autres paroles sur la montagne. Il faut dire qu'on n'entend pas tous les jours la voix de Dieu aussi clairement. Et pour les lecteurs de l'Évangile, plus que pour les disciples mêmes, cette parole divine n'est pas une première. Celui qui nous raconte l'histoire, Marc, avait aussi raconté le baptême de Jésus. Et là aussi, il avait dit que depuis le ciel, la voix de Dieu s'était manifestée. Comme à son habitude, Marc nous invite à saisir les similitudes, mais aussi les différences. Car il y a des différences notables entre les deux déclarations divines. Au moment du baptême, Dieu avait dit à Jésus « Tu es mon fils ». Ici, Dieu indique au témoin « Celui-ci est mon fils ». C'est une réponse claire et inspirée à la question qui traîne depuis le début de l'Évangile « Qui est-il ? Mais d'où vient son autorité ?» La réponse est là « Celui-ci est mon fils », puis il y a le « Écoutez-le ».
Ce conseil, voire cet ordre, n'est pas anodin. Car les Juifs pieux ont toujours été invités à écouter Dieu et Dieu seul. Moïse et Élie n'ont cessé, entre autres, de rappeler la nécessité d'écouter et d'obéir à Dieu, l'Éternel. Ici, Dieu lui-même encourage les disciples à écouter désormais le Fils. En d'autres termes, le Père s'efface devant le Fils. Les disciples, témoins d'une vision extraordinaire, sont aussi auditeurs d'un message inédit. Écoutez-le.
Et soudain, il n'y a plus que Jésus. Élie et Moïse se sont effacés. Le « écoutez-le » met en relief Jésus et Jésus seul. Ce que l'évangéliste est en train de dire à ses lecteurs, c'est que Jésus, que Pierre a discerné comme étant le Christ, le Fils du Dieu vivant, est bien l'incarnation de Dieu le Père, et qu'à ce titre, il est la parole incarnée, celle que l'on doit désormais entendre et écouter. Le Père est tout entier dans le Fils, et le Fils tout entier dans le Père. La parole nouvelle se substitue à l'ancienne. Désormais, l'ordre est clair. Il faut l'écouter, lui, le Fils en qui Dieu a mis toute son affection.
Après l'étonnante révélation, à la fois inscrite dans le passé, mais définitivement révolutionnaire, Jésus, Pierre, Jacques et Jean quittent la montagne. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils retinrent cette parole tout en discutant entre eux. Qu'est-ce que ressuscité d'entre les morts ?
L'interrogation des disciples pourrait surprendre parce que, à l'époque, un bon nombre de religieux croyaient en la résurrection des morts et ils en parlaient. Mais en fait, on croyait surtout en une résurrection finale, au dernier jour. À ce moment-là, tous les morts ressusciteront pour le jugement. Or ici, Jésus parle une nouvelle fois de résurrection, de sa résurrection, laquelle devrait survenir si les disciples remettent ensemble les pièces du puzzle 3 jours après sa mort.
Les disciples ne veulent pas dire ouvertement qu'ils ne comprennent pas tout, et encore moins laisser entendre qu'ils mettent en doute les propos de Jésus. Ils vont alors chercher à comprendre de façon détournée. En fait, ils se souviennent de ce que le prophète Malachie avait dit de la venue du Messie. Le Messie viendra après qu'Élie soit revenu. D'où les questions des disciples. Tant qu'Élie n'est pas venu, le Messie n'est pas possible. Mais est-ce que nous avons bien vu Élie ? Si oui, le Messie est-il bien là ? Et avec lui, le jour du Seigneur est-il proche ? Les disciples, qui tournent en rond, cherchent à inscrire Jésus dans un ordre logique et chronologique des événements. C'est ainsi qu'ils auront enfin la réponse à toutes leurs questions.
Or, Jésus va donner, par son étonnante réponse, une piste pour lire les textes et pour interpréter les temps. Il dit ceci. Vous vous arrêtez sur un détail concernant Élie, celui qui doit venir, et vous réduisez tout à ce que vous voyez pas, vous ne voyez pas. Au lieu de le saluer comme prophète qui vient, vous en avez fait un martyr. Jésus tente ainsi de démontrer qu'Élie était là et qu'il n'a pas été reçu. Par cette démonstration, il annonce aussi que le Messie est là, mais que personne ne le reçoit vraiment. Enfin, je vous dirai les paroles importantes d'aujourd'hui. Celui-ci est mon Fils, écoutez-le, dit Dieu. Amen.
Cette émission se termine. Au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.